Voilà, c'est toujours une grande joie de venir partager la parole. Et je disais tout à l'heure à Jean-Luc que d'habitude, quand on me demande de partager la parole de Dieu dans une communauté, je choisis toujours ce qu'on appelle les textes du jour, à savoir, ce sont les textes, vous savez, qui sont lus dans différentes églises. Et il y a deux listes qui sont communes maintenant. Il y a la liste de la messe catholique, qui est officielle d'année en année. Et il y a la liste de l'Alliance biblique universelle, qui est une liste protestante, c'est la même pour le dimanche. Autrement dit, on peut être en communion sur les mêmes textes, aussi bien dans les églises protestantes, au sens large, que dans les églises catholiques. Et donc, par désir de communion, souvent je prends ces textes-là, parce que d'abord, c'est pas moi qui les choisis, puisqu'ils sont entre guillemets comme donnés, et puis je demande du Seigneur de nous donner la parole à partager à partir de ces textes. Et je pensais le faire aujourd'hui, et j'ai été guidé un peu différemment. Et c'est ça que je voulais d'abord vous partager. Je l'ai dit à Jean-Luc, c'est comme une anecdote, mais elle va vous montrer pourquoi. Il y a deux jours, j'étais dans l'église que je fréquente régulièrement, l'église du Christ à Lille, une petite église évangélique. Et puis, juste après la Sainte-Seine, comme maintenant, si vous voulez, je vois Pierre, donc un frère dans le Seigneur, qui se tourne vers l'assemblée, qui dit « Maintenant, notre frère Étienne va prêcher. » Je n'avais rien préparé, je regarde. Puis là, on me dit « C'était à toi de prêcher, Étienne. » J'ai dit, ah ben écoute, je ne savais pas. Il y avait eu un problème de date, et en fin de compte, l'information était mal passée. Et puis, du coup, je ne pensant pas que j'allais prêcher, j'avais rien préparé. Alors, je me suis dit, Seigneur, bon, je lui ai dit, écoute, Pierre, entonne un chant, on va prier. Et puis, je prie, et je dis, Seigneur, je suis vraiment. Là, j'ai rien préparé, intellectuellement, j'ai rien préparé, je suis complètement dépendant de toi. Qu'est-ce que je peux partager avec mes frères et sœurs? Et le Seigneur m'a mis à cœur un texte sur lequel j'avais déjà enseigné, que j'avais déjà un peu travaillé. Et j'ai simplement ouvert ma Bible pour lire ce texte. Et puis le Seigneur m'a donné de parler pendant presque une demi-heure. Avec quelque chose qui était très construit, mais je sais vraiment que ça venait de lui. Et je me suis dit que c'était aussi une expérience pour moi de montrer que la capacité de prêcher, elle ne dépend pas de nos propres capacités. C'est vraiment le Seigneur qui nous la donne. Et souvent, il va puiser, l'Esprit Saint va puiser dans ce qu'il nous a déjà donné pour construire ce qui va édifier nos frères et nos sœurs. Et ça m'a tellement interpellé, si vous voulez, que je me suis, en voulant préparer pour aujourd'hui, hier notamment, je lisais les textes du jour, et c'est comme si je recevais de vous partager ce que j'ai reçu il y a 15 jours. Voilà. Donc, à partir d'un texte de l'apôtre Paul. Et j'aimerais commencer par une anecdote, encore une, mais un peu étonnante. Je, sur un site internet, je suis très souvent sur internet pour deux raisons. D'abord pour mon travail, et aussi parce que pour moi c'est une bonne source d'actualité, au sens positif du terme, même s'il y a des aspects négatifs à internet. Et là, sur un site finalement tout à fait classique, une information qui paraissait comme un gag. Je vous la donne. Il y a un groupe de chrétiens aux États-Unis qui sont sans doute assez nombreux parce que ce qu'ils disent est connu. Qui sont sûrs et certains que Jésus revient le 21 juin, c'est-à-dire dans un mois. Oui. Alors, il y a un groupe qui dit le 21 mai, puis il y a un groupe qui dit le 21 juin, donc, mais c'est pas grave. C'est, le problème, il n'est pas là pour l'instant. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que ce groupe l'a diffusé et s'est préparé à l'enlèvement de l'église le 21 juin. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Internet, j'ai trouvé cette note, et c'est tout à fait comme une anecdote, en réaction à un groupe d'athées. On fondait une entreprise sur Internet, et la voici. En gros, voilà ce qu'ils disent. Vous allez voir, c'est... Voilà. Chers amis, vous êtes chrétiens, et vous allez être enlevés pour aller au paradis. Nous, nous sommes athées, donc nous allons rester. Mais qu'allez-vous faire de vos animaux et de vos biens? Puisque vous serez enlevés, vos animaux resteront. Donc nous nous proposons, nous, athées qui allons rester, moyennant finance, nous vous promettons que si vous signez un contrat avec notre entreprise, après le 21 juin, nous viendrons chez vous et nous prendrons soin de vos animaux. 121 chrétiens ont signé le contrat. Moyennant $250, quelque chose comme ça. Alors, anecdote pour commencer, pourquoi? Pour deux raisons. Tout d'abord, ces frères ont vraiment la foi dans le retour de Jésus. Deuxième chose, Parce que quelque part, ils ont osé payer. Deuxième chose, nous savons que la Bible nous dit, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et c'est là sans doute l'erreur de ses frères et sœurs. Mais pour autant, leur foi est telle qu'ils ont signé ce contrat parce qu'ils sont certains que leurs animaux vont être restés sans eux. Avons-nous une foi de cet ordre-là dans la promesse de Jésus qui nous dit qu'il vient bientôt? Et c'est ça qui m'a interpellé. Je vous demande pas d'être comme eux, de croire que nous connaîtrons la date. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais ils avaient une foi incroyable. Au-delà de l'anecdote dont on peut rire, ils étaient prêts à donner de l'argent pour s'occuper des animaux parce qu'eux ne viendraient pas avec eux. Alors je me suis dit simplement, nous avons déjà entendu, sans doute pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ces phénomènes où des frères et des sœurs reçoivent comme une espèce d'intuition, en travaillant les textes, en comptant les jours et les moments, de savoir à quelle date viendrait le Seigneur. Mais au-delà de cela, et je le répète, je le redis, nul ne sait ni le jour ni l'heure, il y a une interpellation. Et l'interpellation, en fin de compte, elle traverse 2000 ans d'histoire de l'Église. Et elle traverse aussi, et peut-être que j'aurai le temps d'en parler, je verrai, elle traverse aussi la communion entre l'espérance d'Israël et l'espérance de l'Église. Alors, j'aimerais d'abord lire un texte dans la Bible, évidemment, dans l'Épître aux Thessaloniciens. Et vous allez voir pourquoi cet épître fait écho à cette anecdote. Tout d'abord, en étant simple, pourquoi l'Épître aux Thessaloniciens, c'est important de le dire d'une manière très technique, c'est le plus vieux texte du Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est le texte qui est le plus proche de l'événement de la résurrection de Jésus. On est quasiment certain qu'il a été écrit en l'an 50. En voyant un peu, vous voyez, les voyages de Paul, etc. Autrement dit, il a été écrit, je vais situer, on va dire, entre 15 et 20 ans après la résurrection de Jésus. C'est vrai qu'on n'arrive pas à la dater à un an près, mais on situe l'événement. Et Paul était encore quelqu'un de pas trop vieux. Il devait donc être relativement au début de son ministère. Parce que nous savons que Paul, lorsqu'il s'est converti, n'a pas tout de suite commencé à prêcher. Il nous dit lui-même qu'il s'est retiré en Arabie, etc. Et qu'après, il a été retrouvé, recherché avec Barnabas à Antioche. Enfin, quand il était à Tarse, on le ramène à Antioche, il y a tout un événement. Paul n'a pas prêché tout de suite. Paul n'a pas été tout de suite le grand missionnaire qu'on connaît. Il y a eu un temps de préparation. Je vous une parenthèse, ce n'est pas étonnant. Parce que Paul a dû être drôlement bouleversé par l'événement de Damas. Vous imaginez, et c'est pour ça que d'être l'apôtre Paul nous est si précieux, vous imaginez qu'un homme qui était convaincu que tuer des chrétiens, c'était faire la volonté de Dieu. C'était ça, Paul. Vous savez, quand on nous dit dans les actes qu'il a ravagé l'Église, le mot ravagé, ça vous fait penser à quoi? Il a ravagé l'Église, convaincu dans son zèle de pharisien hyper zélé que cette secte juive dissidente était une insulte à Dieu et qu'il fallait donc l'éliminer. Il a même reçu la lettre de cachet pour aller au-delà du territoire d'Israël, à Damas, pour arrêter les communautés, les membres des communautés chrétiennes, qui à l'époque étaient surtout des juifs. Et donc, Paul, quel bouleversement lorsqu'il se rend compte que sur la route de Damas, alors qu'il part pour arrêter des juifs chrétiens en dehors d'Israël, les persécuter, les mettre en prison, et pourquoi pas s'il se défendait, il y avait des hommes d'armes avec lui, il y avait des gardes avec lui, être violent. Eh bien, il entend cette voix. Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a alors compris que toucher à un chrétien, c'était toucher à Jésus. Et c'est pour ça que c'est lui qui a la plus belle vision du corps du Christ, c'est Paul. Il a compris ce qu'était le corps à ce moment-là. Et ça a dû complètement tellement le bouleverser que c'est évident qu'il n'a pas été propulsé du jour au lendemain en prédicateur ou en missionnaire. Je pense qu'il a dû, le Seigneur a dû le mettre un peu au désert, vous voyez, à l'écart, pour restructurer tout ça, pour réordonner tout ça, pour remettre de l'ordre dans toutes ses pensées. Et il est alors devenu ce puissant intellectuel renouvelé, ce docteur de l'Église pour tous les siècles. Et Paul, il est donc le témoin fidèle de ce qui se passait dans les toutes premières communautés, et la plupart, on va dire, des communautés qu'il visitait, il en avait été un peu le père. Et voilà ce qu'il dit. Vous êtes Thessaloniciens, c'est une des épîtres que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'elle nous montre vraiment quelles étaient les questions, quels étaient les combats, quels étaient les enjeux, quelles étaient les prédications, les pensées qui traversaient les premières communautés. Et dans le cinquième chapitre de la première épître aux Thessaloniciens, voilà ce qui est dit. Et vous allez voir que ça fait jour par rapport à ce qu'on vient de partager sur l'anecdote de ses frères et sœurs américains. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, et je rajouterai, et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent de la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Je continuerai un peu plus tard. L'apôtre Paul, juste avant dans le chapitre 4, il exhorte à la sainteté. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Frères et sœurs, la sanctification, et je ne vais pas prêcher là-dessus parce que c'est tout un sujet aussi, la sanctification, c'est pas une recherche, j'ai envie de dire, par nos propres forces de la sainteté. La sanctification, c'est laisser l'Esprit Saint agir en nous pour devenir saint. Recherchez la sanctification, recherchez la communion avec l'Esprit Saint qui vous rend saint. Et puis Paul parle alors ensuite de l'enlèvement de l'Église, justement, dont parlaient ces chrétiens. Alors, je ne lis pas ce qu'il a dit, il en arrive là. « Mes frères et sœurs, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. » Frères et sœurs, est-ce que si vous me prenez pour l'apôtre Paul, est-ce que cette parole vous rejoint? Est-ce qu'on n'a rien à vous apprendre là-dessus? Ça veut dire quoi pour Paul? Paul dit, mais vous savez tous très bien ce qu'a dit Jésus. C'est la première génération des chrétiens. 20 ans après l'événement, Pierre est encore vivant. Parce qu'on sait que Paul et Pierre, ils ont eu des relations. Pierre est encore vivant. Est-ce que Pierre était là le jour de l'ascension? Est-ce que Pierre était présent avec tous les apôtres lorsque Jésus a été enlevé au ciel? Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu les apôtres et ceux qui étaient là une parole qui leur disait, les anges qui leur disaient, il reviendra de la même manière qu'il vous a été enlevé? C'est dit dans les Actes, ça. Vous êtes d'accord? C'est écrit par Luc, un compagnon de Paul. Donc Paul savait ça aussi. Donc c'est évident que cette parole-là que les anges avaient entendue, donnée et était enseignée à toutes les communautés. Frères et sœurs, j'ai rien à vous apprendre. Vous savez qu'il nous a été promis que Jésus va revenir dans la gloire. Autrement dit, on n'a rien à leur apprendre. Où en est-on, nous, l'Église, de cette parole? Un des défis majeurs de l'Église, et il n'est pas neutre, frères et sœurs, c'est au fur et à mesure qu'on s'est éloigné de la génération des premiers chrétiens, on a perdu l'espérance et la foi en cette promesse, et l'Église s'est installée comme un royaume terrestre. Et ça a été la tentation du pouvoir qui a tenté l'Église de tout temps. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Où est notre espérance? Dans quel royaume est-elle? Un royaume terrestre ou un royaume céleste? Une Jérusalem terrestre ou une Jérusalem céleste? L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Galates une phrase qu'on ne prêche pas souvent dessus. Il dit « Notre mère, c'est la Jérusalem céleste. » Notre mère. C'est un juif qui dit ça. Croyez-moi, Paul, la Jérusalem terrestre, il connaît, il y est attaché. Mais notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Autrement dit, Paul parle à une communauté qui a reçu l'enseignement. C'est tout frais, c'est tout neuf. 20 ans, vous savez, 20 ans c'est beaucoup peut-être, mais 20 ans par rapport à l'événement, c'est très peu. Nous, on est à 2000 ans d'événement. Mais paradoxalement, frères et sœurs, Nous sommes plus près de la venue de Jésus que eux. Nous sommes plus près de l'accomplissement de la promesse que eux. Où en sommes-nous de cette promesse, de cet accomplissement? Et plutôt que, en fin de compte, de développer, si vous voulez, toute cette question sur les paroles de Jésus, j'aimerais partager sur cette question « Où en sommes-nous ?» de la manière suivante. Paul, qu'est-ce qu'il va dire aux Thessaloniciens? Il ne va pas leur donner un code pour connaître le jour et la date. Il va leur dire, leur enseigner quelle attitude avoir en face de cette promesse. Quel style de vie avoir? Comment être? Parce que, frères et sœurs, quelle est votre espérance? C'est ça la question. Quelle est votre espérance? Quelle est notre espérance? Je reviens pas une anecdote, mais vous savez que dans le peuple juif, beaucoup d'enseignements sont donnés à partir de ce qu'on appelle l'enseignement des pères, la tradition des pères, à savoir ce que des rabbins du passé ont enseigné. Et il y a un rabbin, dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas ça la question, qui dit ceci. Lorsque le Messie viendra, entre nous soit dit, les juifs et les chrétiens, nous sommes ensemble le peuple de l'attente et de l'espérance. Lorsque le Messie viendra et qu'il sera là, sais-tu quelle question il te posera? Autrement dit, pour te prendre avec lui. Et il pose cette question à ses disciples, ce rabbin. Et évidemment, je suis certain qu'un des disciples allait lui dire, est-ce que tu as obéi à tous les commandements de Moïse? Est-ce que tu as pratiqué la loi? Est-ce que tu as aimé ton prochain? Est-ce que tu as aimé Dieu et Dieu seul? Etc. Il dit, non, non. Le Messie te demandera une seule chose. As-tu espéré? As-tu espéré? C'est pas de l'espoir dont on parle, c'est de l'espérance. Frères et sœurs, Paul dit, quelle est l'espérance qui est attachée à notre appel? Quelle est l'espérance qui est attachée à l'appel qui est sur notre vie? Quelle est l'espérance qui doit nous mobiliser et nous mettre en route? C'est quoi cette espérance? Cette espérance, c'est la seule espérance qui vaille dans ce monde, c'est que Jésus vient. Jésus non pas revient, Jésus vient. Et j'aimerais vous donner une petite image. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'image des deux alliances là, avec la croix et la porte. Quand j'étais jeune chrétien, ça remonte à quelques années maintenant, on vieillit. Alléluia, on se rapproche du temps où Jésus arrive. Je fréquente toujours pendant l'été une église près de Valence. C'est une église qui a connu un réveil dans les années 30, une église protestante, à Charmes, sur Rhône. Et cette église a connu un réveil, c'était une église, si vous voulez, protestante historique, qui était issue des Camisards, vous voyez, à l'époque, voilà. Et donc, il y a eu tout un réveil dans la vallée de l'Eyrieux. Des pasteurs ont été saisis par le Seigneur. C'était en plus dans l'église réformée, donc qui est une église un peu historique. Et ça a vraiment donné des communautés qui ont été renouvelées totalement. Et dans ce temple, à ce moment-là, le temple a été un peu renouvelé. Et le pasteur qui prêchait dans ce temple, Louis Dallière, était un homme de Dieu tout à fait étonnant. Et donc, vous avez déjà vu des temples classiques. Alors ça ressemble tout à fait à ce qu'on a ici, sauf que c'est un peu plus haut. Ça a une forme d'arche, comme ça. Il n'y a aucune décoration. C'est vraiment les protestants. C'est blanc. Il n'y a pas une photo, rien. Alors c'est nu de chez nu. C'est austère de chez austère. Hein. Même des trucs comme ça, vous voyez, des belles photos, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment les protestants dans l'austérité radicale. Et puis, juste au fond, il y a une chaire où le pasteur prêche. Mais il fallait... Là, on montait en chaire. Comme ça, on dominait l'assemblée. Puis la voix portait plus loin. Je vais en mettre dans le micro parce que là, je vois que je m'écarte. Et puis... De cette chaire, en fin de compte, le pasteur pouvait prêcher, et derrière, il y a le grand mur du fond. Et alors, quand on se tourne vers la chaire, voilà ce qu'on voyait. De ce côté-là, au commencement, c'est écrit, c'est peint et écrit, au commencement, virgule, Dieu, trois points de suspension. Puis le regard est alors attiré vers la chaire, où il y a la croix derrière. Et de l'autre côté, trois points de suspension, viens Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout est là-dedans. Ce mur résume tout le plan de Dieu et toute l'espérance chrétienne. Et je dirais l'espérance judéo-chrétienne. Quelle est notre espérance? Quelle est notre certitude, frères et sœurs? Cet univers a un sens. Dieu l'a créé. Il est au commencement de tout. Au commencement de ce que la science découvre, et je suis scientifique, c'est pour ça que je le dis, au commencement de ma vie, au commencement de toute chose, Dieu. Par sa parole, il a tout créé. Et Dieu a un plan et un projet. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et que l'univers entier soit régénéré. Parce que tout a été fait par Christ, tout a été fait pour Christ. Et c'est pour ça qu'au milieu, il y a l'œuvre de la croix. Notre espérance, elle s'enracine, non pas dans nos propres vertus, mais dans l'œuvre accomplie en Jésus-Christ. Et du coup, après l'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'il nous reste d'essentiel? Viens, Seigneur Jésus. Tout est accompli, tout est dit. Et ça m'a frappé parce que j'ai retenu ça, si vous voulez, comme d'un seul coup, c'est comme si j'avais enfin le début et la fin de l'ensemble avec la croix au centre. L'œuvre de Dieu, elle est totalement accomplie en Jésus-Christ. Dieu a un projet, il a créé cet univers, il désire qu'il soit régénéré et que nous soyons parfaitement en communion avec lui pour toujours. Pour cela, il a vaincu ce qui nous sépare de lui. Et qu'est-ce qui nous sépare de lui, frères et sœurs? La mort. Et quand Paul prêche aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il leur dit? Je n'ai rien à vous apprendre parce que vous savez que le Messie est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et c'est là notre espérance. Frères et sœurs, où en sommes-nous de la foi en la résurrection? Est-ce qu'elle est le moteur qui fait que notre vie, nous y sommes attachés d'une manière juste? J'ose dire, et je le dis peut-être avec frémissement, que je préfère à la limite être auprès de lui que de rester ici, comme dit Paul. Que je sais où j'irai si je meurs. Et que Paul dit la mort m'est un gain. Ce n'est pas pour fuir la vie, certainement pas. Mais quelle était l'espérance chevillée au cœur de Paul? Christ a vaincu la mort et toutes les formes que prend la mort dans ce monde. Quelle espérance, frères et sœurs! Pourquoi quelle espérance? Parce que si c'est vrai, et je crois que c'est vrai, et je sais que c'est vrai, alors je ne peux désespérer d'aucune situation. D'aucune situation. Quel que soit l'homme et la femme que je rencontre, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, quel que soit l'effet que la mort a déjà dans sa vie, parce que la mort c'est la conséquence du péché, Jésus est plus grand que cela, il est capable de le rejoindre, de le retrouver et de le sauver. C'est ça l'espérance. Personne n'est perdu. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Quiconque croit en lui passe de la mort à la vie. Les frères et sœurs des premiers chrétiens, c'était bouillant. C'était frais. C'était ça leur espérance. Où en sommes-nous quand nous rencontrons telle ou telle personne dans telle ou telle situation? Et moi, je pense que Paul est animé par ce zèle-là, et les premiers chrétiens aussi. Vous connaissez la Bible, ça n'a pas été sans combat non plus. Il y a des moments où ça devait être, vous voyez, comme des vagues, il y avait des hauts, il y avait des bas. Mais c'était tout frais, c'était le cœur du message qu'on venait de découvrir. L'expérience était à peine 20 ans, une génération. C'est comme si j'étais avec vous, et je peux dire que mon père et mon grand-père ont vécu ça, et ils me l'ont transmis. C'était tout frais. Voilà ce qui les animait. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que Paul donne alors aux Thessaloniciens deux recommandations. Vous êtes du jour, vous n'êtes pas de la nuit. Ça veut dire quoi, être du jour et ne pas être de la nuit? Ça veut dire que vous êtes éclairés. Vous êtes dans la lumière. Vous savez quoi? Mais vous savez quel est le sens de ce monde? Quel est le but de ce monde? Vous savez pourquoi Jésus est venu? Vous savez tout ce qui a basculé avec la venue de Jésus? Vous êtes donc la lumière du monde. Vous êtes du jour. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Vous n'êtes pas des ténèbres. Vous êtes du jour. Et voilà ce qu'il dit, ne dormez pas. Mais veillez et soyez sobre. Veillez et soyez sobre. Deux paroles très fortes de Paul. C'est la ligne directrice qu'il donne aux Thessaloniciens. Puisque vous savez toutes choses, puisque vous avez compris quel est le plan de Dieu, puisque vous-même vous avez été sauvé, vous avez accepté Jésus comme sauveur, puisque vous avez testé, éprouvé, vérifié l'efficacité de l'œuvre du Christ. Vous avez reçu l'Esprit Saint, vous avez vu des miracles, votre propre vie a changé. C'est donc une expérience vraie, vous le savez. Alors quelle attitude avoir? Ne comptez pas les jours, ne comptez pas la date. Vous savez que Jésus tiendra sa promesse, qu'il vient. Dans ce temps d'attente, veillez et soyez sobre. Alors j'aimerais un tout petit peu insister sur ces deux mots de Paul. Veillez et soyez sobre. Qu'est-ce qu'un veilleur? Un veilleur, c'est quelqu'un qui, finalement, n'est jamais endormi à 100%. On est d'accord? Il y a une belle image que je prends. J'ai fait installer il y a 5 ans une nouvelle chaudière chez moi parce que l'ancienne était morte. Et c'est marrant parce que dans l'ancienne chaudière, il y avait une petite veilleuse qui était toujours allumée, vous savez, toute petite flamme. Et dès qu'on avait besoin d'eau, boum, elle enflammait le reste. C'est ça un veilleur. Une petite flamme toujours allumée, même quand il n'y a plus rien autour. Nous sommes des veilleurs pour les autres. Nous sommes des guetteurs d'aurore. Nous attendons le jour du Seigneur. Nous sommes des guetteurs d'aurore. Un veilleur, c'est la sentinelle qui regarde au loin, qui attend l'aurore. Malgré la nuit, sait que l'aurore va venir, alors il reste éveillé. Sommes-nous des veilleurs pour nous-mêmes et pour le monde? Nous savons que Jésus a dit qu'il viendra. Sommes-nous des veilleurs? Avons-nous en nous cette petite flamme toujours allumée que ce monde prendra fin? Et qu'un jour, tout œil le verra. Et que jusqu'à ce jour, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu, où tout est possible. À celui ou à celle qui se tourne vers lui. Être des veilleurs pour les autres. Mais veiller, il y a un autre mot, et c'est Jésus qui l'associe, parce que Paul connaît les paroles de Jésus. Est-ce que Jésus a parlé de ça? Oui. Il y a beaucoup de paraboles. Et Jésus a toujours dit qu'il fallait veiller, qu'il fallait être attentif, qu'il fallait ne pas s'endormir. Souvenez-vous, une des premières paroles, c'est un peu étonnant, mais c'est la parabole des talents. Le maître tarde, mais il revient. Et puis alors, il regarde comment tu as fait fructifier ce qu'il t'avait donné. Et on ne sait pas quel jour il reviendra. Puis vous savez, dans Marc, il parle aussi, finalement, que le jour du Seigneur, il sera comme un voleur, il le dit, qui viendra nous surprendre. Et alors Jésus leur dit: frères et sœurs, veillez et priez. Alors un veilleur, c'est quelqu'un qui est éveillé et c'est quelqu'un qui prie. Il y a un ancien dans mon église qui est maintenant auprès du Seigneur, Marius de Mouveau, peut-être que quelques-uns l'ont connu, un homme de Dieu étonnant. Un homme de prière, étonnant. Et Marius me disait: Étienne, il ne faut jamais désespérer de la prière. Il ne faut jamais désespérer. Marius pouvait prier pendant des années pour une personne. Des années. Jusqu'à l'exaucement. Il ne faut jamais désespérer de la prière. Tenir cette petite flamme allumée de la certitude que Dieu va répondre. Pour nous, pour les autres et pour le monde. Être des veilleurs, éveillés, sachant que ce monde prendra fin et que jusqu'à ce que ce jour vienne, c'est peut-être demain, il est toujours temps de pouvoir annoncer, partager et espérer avec les autres qu'ils peuvent changer de vie et que, quelle que soit la situation qu'ils connaissent, Dieu peut agir. J'ai entendu il y a 15 jours, il y a une semaine, une prédication où quelqu'un disait: tu n'as jamais eu accès à la puissance de Dieu tant que tu n'as pas demandé l'impossible. Et j'ai vécu, alors tout à l'heure, Jean-Luc qui demandait un peu des témoignages, je me suis dit, je le dirai ou maintenant. Le week-end dernier, j'ai vécu une expérience très très belle, très encourageante. On a fêté les 100 ans de la troupe scout de ma paroisse, celle où j'ai grandi, à Fives. et le scoutisme protestant. Et quatre générations étaient là présentes. Celle de mon père, 80 ans, celle de mes chefs scouts de l'époque, 60 ans, la mienne, puis celle des plus jeunes, puis les tout petits derniers qui y sont encore, cinq générations. Et je retrouvais alors les deux chefs scouts que j'avais quand j'avais 16-17 ans, qui tous deux étaient à l'époque, en 73, allés à Gagnères, étaient revenus remplis du Saint-Esprit et m'avaient mené au Seigneur. C'est eux qui m'ont appris à jouer de la guitare, c'est avec eux que j'ai commencé à chanter des premiers chants chrétiens, etc. Et l'un d'eux, Christian Verdebout, j'ai appris il y a un an et demi, c'est terrible ce que je vais vous dire, que sa fille a été assassinée, 18 ans, à coups de marteau par sa meilleure amie. L'horreur absolue. Et nous, en même temps, on avait nos amis Richard et Marie qui avaient perdu leur fille, du même âge, enfin un peu plus jeune, mais bon. Et donc, Christian, je l'avais plus vu depuis 20 ans. Et simplement, c'était une tragédie terrible et ceux qui le connaissent, on a commencé à dire, on va prier pour lui, on va le porter dans la prière. Et quelques mois plus tard, j'apprenais qu'il avait suite à ça déclenché un cancer. Et devinez un cancer de quoi ? Un cancer de l'estomac. Il disait lui-même, j'ai pas pu digérer ce qui est arrivé. Cancer de l'estomac et du pancréas. Bon, il a 47 ans, 46 ans. 57 ans, 56 ans. Donc un peu plus vieux que moi, il y a 50 plus que moi. Donc, on a dû lui retirer l'estomac et une grande partie du pancréas. Et la situation était terrible. Alors vous imaginez, il perd sa fille, et maintenant sa femme et le fils qui leur reste allaient perdre leur père, quoi. Donc là, l'intensité de la prière a été encore d'autant plus forte. Et je l'ai vu devant moi, en pleine forme. Il m'a dit, Étienne, je suis en rémission, pour les médecins, je suis guéri. La réponse à la prière. Il ne faut jamais désespérer de la prière. Sa femme était là, et leur fils. Ils avaient eu le courage de venir. On a pu parler avec eux, les entourer. Et lui, je sentais en lui une espèce d'apaisement. Malgré toute l'épreuve, la réponse à la prière. J'ai vu devant moi un exaucement vivant de l'efficacité de la prière. Merci Seigneur. Ne jamais désespérer de la prière. Veillez et priez. Quelle que soit la forme que prend la mort, Dieu peut intervenir. Parce qu'il a vaincu la mort. En Jésus-Christ. Alors, veiller, c'est ça. C'est garder au fond de nous, toujours allumé, la certitude que les paroles de Jésus sont vraies et que ce qu'il a dit, il va le faire. Même s'il ne reste plus que la petite flamme, voyez, et que ce n'est pas la grande chaudière, si c'est la flamme, la chaudière peut s'allumer. Veiller, pour nous et pour les autres. Deuxième chose qui va veiller, prier. Ne jamais désespérer de la prière. Priez, priez, priez. Priez pour les autres, priez pour nous, priez pour que nous soyons prêts. Priez les uns pour les autres, pour que notre lampe reste allumée. Veillez et priez. Et puis, veiller, c'est nous accrocher, adhérer à l'espérance. Et quelle est notre espérance ? Pierre dit qu'il faut toujours rentrer en raison d'espérance car nous, notre espérance. C'est tout ce que Jésus a accompli. Il l'a fait, il l'a réalisé, cela s'est réalisé et il tient ses promesses. C'est ça notre espérance. Notre espérance, vous voyez, c'est non pas les œuvres que nous faisons, mais c'est les œuvres que Jésus a faites pour nous. C'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est Jésus lui-même. Ce qu'il est. C'est lui notre espérance. Et Paul dit alors, nous sommes du jour, soyons sobres. De quelle sobriété il parle ? Alors, il reprend l'image de ceux qui s'enivrent. Mais je ne pense pas que Paul, à l'époque, faisait partie de la Croix Bleue pour uniquement parler à des personnes alcooliques. Je ne dis pas ça péjorativement. J'ai moi-même fait partie de la Croix Bleue pendant plus de 10 ans. Donc, je sais ce que c'est qu'accompagner des frères et des sœurs qui sont addicts à l'alcool. Quelle captivité c'est. Mais quelle espérance, là aussi, de voir des hommes et des femmes libérés de l'emprise de l'alcool, par la grâce de Dieu. Soyons sobres. En gros, Paul dit, je le traduirai comme ça, si vous êtes trop attachés aux choses de ce monde, comment voulez-vous vous en détacher pour suivre Jésus ? Et frères et sœurs, qu'est-ce qui nous retient ? Parce que voyez-vous, quelque part, soyons sobres. À l'époque de Paul, je ne suis pas convaincu que les chrétiens de Thessaloniciens avaient le confort que nous, nous avons. Et un des aspects qui nous maintient dans une espèce d'espérance affadie et qui maintient l'Église avec une veilleuse extrêmement petite, voire éteinte, c'est qu'elle elle jouit déjà sur terre d'un confort satisfaisant. Frères et sœurs, nous sommes en France. Je vous prépare, nous sommes extrêmement riches. Vous êtes déjà allé en Afrique ? C'est une autre planète. C'est une autre planète. Ce n'est pas 8000 km qui nous séparent. C'est des années-lumière. C'est une autre planète. Moi, j'y suis allé en 90-92. J'en suis parvenu indemne. C'est une autre planète. On ne s'imagine pas. Nous sommes riches, excessivement riches. Et nous avons une jouissance des biens. Et peut-être la plus forte jouissance, c'est le confort de santé. Regardez l'espérance de vie que nous avons atteint. Et nous pouvons avoir un certain attachement aux choses de ce monde, aux réalités matérielles qui nous détachent de l'essentiel. La sobriété, ce n'est pas forcément de les refuser et de choisir la pauvreté. La sobriété, c'est comment j'y suis attaché à ces choses. Est-ce qu'elles ont une place première dans ma vie ou secondaire ? Et je voudrais vous le dire parce que, vous voyez, moi j'ai une maison, j'ai deux voitures, par la force des choses, parce qu'on travaille à deux, etc. J'ai un beau salaire parce que je suis professeur. Et je me dis, Seigneur, mon grand-père c'était un ouvrier. Mon arrière-grand-père c'était un manœuvre. Moi je viens d'une famille où on était pauvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est ça le paradoxe. C'est que mon grand-père maternel s'est converti à Jésus-Christ. Et du coup, la vie de famille a changé. Au lieu d'aller dépenser sa quinzaine au bistrot comme tous ses copains. C'est dans les années. Je vous parle du 19e siècle. Hein, d'accord ? Dans les mines ou dans les filatures, c'était ça. Ne nous leurrons pas, tellement c'était dur. On le sait bien. Eh bien, on s'occupait de nos enfants. On les mettait à l'école du dimanche. On priait avec eux. On les éduquait. Et qu'est-ce qui se passait ? Ben, ils réussissaient à l'école. Et deux générations plus tard, le fils aîné de mon grand-père est devenu directeur de personnel de l'usine. Parce que leur vie avait changé. On voyait dans la famille l'effet de l'évangile. Et l'effet de l'évangile, frères et sœurs, c'est paradoxal, c'est une réussite sociale. Qui va dans notre pays avec une réussite financière. Et deux générations plus tard, on était tous des nantis. Dans mon église, il n'y a plus d'ouvriers. Des médecins, des vétérinaires, des profs. Mais à la fois, c'est une action de grâce, parce que c'est l'Évangile qui a agi dans les familles, qui a fait qu'on s'est occupé des enfants et que nous avons réussi. Mais que faisons-nous de ce confort qu'on a atteint ? Est-ce que nous y sommes attachés à un point tel que nous jouissons de ce confort en oubliant ce qui nous attend ? Je crois que c'est ça la sobriété. C'est dans quel état d'esprit jouissons-nous des biens momentanés que nous avons dans ce monde ? Les moines catholiques choisissent la pauvreté. La pauvreté, c'est le refus, finalement, de jouissance des biens matériels. Ce n'est pas la misère. La misère, on l'a subie. La pauvreté, on l'a choisie. Paul ne dit pas « soyez pauvres ». Il dit « soyez sobres ». Paul était issu d'une famille de riches. Il ne faut pas l'oublier. Soyez sobres. Et je pense que l'Église a manqué de sobriété. Est-ce que nous sommes prêts à rester fidèles au Seigneur si nous n'avons plus rien ? Plus de sono, plus de guitare, plus de vidéoprojecteur, plus de local. Est-ce que nous resterons encore attachés à lui ? Est-ce que nous resterons encore attachés à lui si notre pasteur ou si nos responsables n'attirent pas 15 000 personnes chaque dimanche ? Et vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que moi je crois qu'on ne mesure pas l'Église au nombre de fidèles. J'en suis certain. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que nous attendons le succès sur cette terre ? La réussite sur cette terre ? Moi, j'ai vécu la réussite sociale de ma famille comme une grâce de l'Évangile. Mais je ne la revendique pas comme étant le statut que nous devons tous atteindre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je n'y suis pas plus attaché que ça. Mais je rends grâce à Dieu d'avoir béni mes parents au point qu'ils nous aient à ce point éduqués que nous aurions tous réussi. Alors, c'est ça la question. sobriété. Et Paul parle à des églises qui sont en pleine croissance, charismatiques, où il y a des guérisons, des miracles, des signes. On le sait bien. Soyez sobre. Soyez sobre. Vous savez, dans quel moment l'église a le plus grandi ? C'est quand elle était persécutée. Quand les gens n'avaient plus rien. Parce que du coup, il nous reste l'essentiel, la petite flamme à entretenir. Je ne dis pas qu'il faut le souhaiter, hein, frères et sœurs. Ne soyons pas masochistes. Mais si cela nous vient, sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts ? Voilà, je ne me mets pas en avant, vous voyez, frères et sœurs, mais cette question-là me taraude depuis toujours, parce que ma femme et moi, on est riches. Nous sommes riches. Et puis, quand on a eu Pierre-Lyne, notre bébé, on avait déjà une première maison. Alors, je vous parle un peu d'anecdote, vous allez comprendre. J'ai grandi à Fives, un quartier hyper populaire, un quartier d'ouvriers. C'est le quartier de mon enfance, de ma jeunesse, etc. Et puis, quand je me suis marié, on était dans un appartement, et puis évidemment, comme beaucoup de couples, on espérait acheter une maison. Et on a pu en acheter une. Mais voilà, ma femme habitait Marc-en-Barœul. Et pour moi, vraiment clairement, Fives, c'était mon quartier, Marc-en-Barœul, c'était les bourgeois. Ça l'est, hein, faut reconnaître. Ça l'est toujours. Et jamais j'aurais pensé que j'allais un jour habiter à Marc-en-Barœul. Parce que pour moi, Marc-en-Barœul, c'est des maisons riches, inaccessibles. C'est trop riche, j'avais un réflexe de Roger. Et j'habite Marc-en-Barœul. Le Seigneur m'a permis d'acheter une maison à un prix dérisoire par rapport à ce que c'est, parce qu'on a été bénis. Et dès que j'ai eu cette maison, c'est la maison avec le plus grand terrain du quartier. Alors c'est invraisemblable d'ailleurs. Mais je dis, Seigneur, mais pourquoi faire, quoi ? Et d'une, ça me prend du temps. Mais j'ai très vite compris que le Seigneur me disait, en fin de compte, c'était comme un choix. Qu'est-ce que tu vas faire de cette maison ? Je dis, Seigneur, cette maison, elle est pour toi. Je ne veux pas en jouir pour moi seulement. Et du coup, on a toujours des gens à la maison, on a eu un groupe de prière pendant des années, etc. On avait assez de place pour accueillir, on peut accueillir la famille, on peut accueillir les amis, etc. Voilà, une maison ouverte. Ce qui nous est donné, ce n'est pas pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une manière d'être sobre, c'est le partage. Je ne jouis pas pour moi, je ne consomme pas pour moi. Vous savez, la publicité, bien dans ses meubles, bien dans sa vie, c'est l'anti-évangile, ça. Seigneur, même sans mes meubles, je suis bien avec toi. Soyons sobres. Deuxième sobriété, sobriété spirituelle. Je crois que c'est un mot fort aujourd'hui, et je reviens tout à l'heure, je reviens à ce que je disais. Ce n'est pas parce que nous avons des églises de 10, 20, 30 membres, d'accord, qu'il faut désespérer en se disant, vraiment, je suis un mauvais pasteur, nous sommes des mauvais chrétiens, c'est minable, c'est nul. Quand je vois les églises américaines, ils sont 150 000, etc. Ils ont des gymnases intérieurs, ils ont des centres commerciaux dans leurs églises. L'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la réussite sociale, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la réussite aux yeux du monde, selon les normes du monde, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus a toujours dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Jésus a dit que le chemin est étroit. Jésus a dit qu'il faut porter sa croix. Et quand Jésus a vécu ça, tous l'ont abandonné. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous partager, frères et sœurs ? Ce n'est pas le succès visible qui est le signe le plus évident de la présence de l'Évangile. Soyons sobres. Cela peut venir. Et quand ça vient, gloire soit rendue à Dieu seul. Jésus a connu 3 ans de succès. Et dans les derniers jours, plus personne n'était là. Et pourtant, c'est dans les derniers jours que s'est joué le sort du monde. Ce n'est pas dans les 3 ans de succès avant. La croix. La croix. Soyons sobres. Paul sait de quoi il parle. Parce que Paul, c'était un homme de succès, brillant. Reconnu par l'élite intellectuelle et théologique de l'époque. C'était un homme de pouvoir, un homme riche. Il a dit lui-même, je considère ça comme de l'ordure par rapport à la connaissance de Christ. Et Paul, il a dit aux Corinthiens, je ne prêcherai rien d'autre que la croix, ni les miracles, ni les signes. Où en sommes-nous ? Quel succès, quelle image du succès chrétien avons-nous? Le succès de Dieu, c'est la croix. Folie pour l'homme, sagesse de Dieu. Je ne dis pas, frères et sœurs, je ne suis pas dans le jugement des églises de 20 000, 30 000 personnes. Certainement pas. Mais ce n'est pas forcément cela le modèle pour toute l'église. Et ce n'est pas ça le critère de réussite d'une vie d'église. Sobriété. J'ai rencontré un pasteur qui dirige une église énorme comme ça. J'ai vu une fois, je crois que c'est quelqu'un qui est sobre. C'est ça qui est paradoxal, malgré cette réussite. Tout dépend de la relation qu'on entretient avec cette réussite-là. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons sobres. Et ça, c'est fondamental. Être détaché. La Jérusalem céleste, c'est notre mère. Alors, Paul, il continue, et je vais vous lire la suite des Thessaloniciens. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ça vous... Petite leçon. Paul, c'est sa première lettre qu'il écrit. Vous ne voyez pas déjà en prémisse ce qu'il va dire dans Éphésiens, sur l'armure du chrétien? Le casque du salut, vous savez, le glaive de l'esprit, les souliers du zèle. Vous voyez, on voit que la pensée de Paul est en train de se former. Dieu l'enseigne, Dieu le forme. Et puis, Éphésiens, c'est après Thessaloniciens. Mais qu'est-ce qu'il y a après Éphésiens? Il y a Romains. Et puis, il y a Corinthiens. Et Corinthiens, c'est... Mais voici, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Un jour, notre espérance s'arrêtera. On n'aura plus à espérer. Notre œil le verra. L'espérance est pour un temps. C'est le moteur de l'attente, l'espérance. C'est le moteur de l'attente. Si nous n'espérons pas, nous n'attendons plus. Nous sommes assis, une église terrestre, empiétée dans des combats spirituels, dans des combats théologiques, et qui ne sert plus à grand-chose. Le moteur de l'attente, c'est l'espérance. Mais quand nous verrons, nous n'aurons plus à attendre et plus à espérer. Et frères et sœurs, vous savez quel est le peuple qui est le vraiment aujourd'hui, et c'est paradoxal. Où trouve-t-on ceux qui ont la plus grande espérance, donc la plus grande attente? Chez les Juifs. J'aimerais bien l'avoir chez les chrétiens. Mais les Juifs, le Messie, ils l'attendent, hein, depuis 2000 ans. Bien plus que l'Église ne l'a attendu. Les premiers chrétiens étaient tous juifs. Donc ils savaient que le Messie était déjà venu, ils attendaient la promesse de sa seconde venue. Sommes-nous dans cette attente-là, portée par l'espérance? Mais voyez, frères et sœurs, on pourrait s'étendre là-dessus. Ça conditionne notre vie. Est-ce que mon mariage est un but en soi? Est-ce que être heureux avec ma femme, c'est un but en soi? Est-ce qu'avoir des enfants et bien les élever, c'est le but de ma vie? C'est important. Mais quel est le vrai but de tout cela? Qu'est-ce qui m'attend réellement? Ça ne veut pas dire que je regarde cela négativement. Mais je place là en perspective de l'essentiel. L'essentiel, c'est que peut-être demain, ou peut-être dans 5 minutes, tout œil le verra. Suis-je prêt? Suis-je en état de répondre à la question « Étienne, as-tu espéré ?» Ça veut dire, as-tu vécu une vie où chaque acte que tu as porté, finalement, a été un acte de témoignage à l'œuvre de Jésus, un acte qui apporte l'espérance dans le monde. L'espérance que, oui, c'est certain, ce monde disparaîtra, la mort ne régnera plus, il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni souffrance. Mais jusqu'à ce jour, nous sommes dans l'attente, il reste la foi, il reste l'espérance et l'amour pour nous aider à tenir jusqu'au bout. C'est ce que dit Paul. Et il continue. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Il dit c'est bizarre, soit que nous veillions, soit que nous dormions. Alors pour Paul, ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ce sont ceux qui dorment. Pour Paul, la mort, on dort. Dans l'attente. Qu'est-ce qu'il dit lui-même? Quand Jésus reviendra, finalement, les morts en Christ ressusciteront et nous serons joints à eux dans la nuée. Vous voyez l'image qu'il donne? Donc Paul dit, rassurez-vous pour ceux qui sont déjà morts. Rendez-vous compte, ça devait être un problème pour la première génération de chrétiens de voir des chrétiens mourir. Parce qu'ils attendaient tellement fermement la venue de Jésus, visiblement, qu'ils allaient la voir de leur vivant. Et Paul dit, mais rassurez-vous, pour ceux qui sont morts, ils dorment, ils sont dans l'attente, comme vous, dans un autre état, et ensemble, nous le verrons. C'est pourquoi, et je terminerai avec ça, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité, vous le faites. Il faut que nos églises redeviennent un lieu d'expérimentation et d'encouragement à l'espérance. Expérimenter, comme voir des exaucements à nos prières. L'œuvre de Jésus, elle est efficace. Vous savez, moi je suis scientifique, ça veut donc dire que la science ne considère comme vrai que c'est expérimentable et vérifiable. Bah, pour moi, la foi, c'est vérifiable. Si je devais écrire tous les exaucements à toutes les prières que le monde a déjà connues, il n'y aurait pas assez de place pour tenir tous les bouquins ici. Ça, il faut oser le dire aussi. Nous savons que Jésus existe, parce que nous avons vu les exaucements, et nous en verrons encore. Autrement dit, voyez, frères et sœurs, on peut s'encourager à l'espérance. Quand on voit un jeune converti, c'est par les vertus de l'œuvre du Christ qu'il est là, et ça encourage notre espérance qu'on peut continuer à espérer que Jésus est vivant, qu'il agit, qu'il a vaincu la mort. On s'encourage réciproquement. Et on entretient entre nous cette petite veilleuse qui fait que, et je terminerai par ça parce que je peux parler encore longtemps, une des paraboles les plus étonnantes que Jésus nous donne, c'est celle des 10 vierges. Les vierges sages et les vierges folles. C'est une des paraboles de l'attente. Je ne vais pas la relire, mais qu'est-ce qui est dit à un moment ? Elles s'endorment toutes. Même les sages s'endorment. Et à un moment, elles sont toutes assoupies, on entend quelqu'un qui dit « Le marié est là, l'époux est là !» Et à ce moment-là, elles se réveillent toutes. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Elles étaient toutes endormies, mais la moitié d'entre elles avaient encore de l'huile. Elles avaient encore en eux, elles avaient gardé en elles cette huile de l'espérance qui fait que comme une petite veilleuse, dès que le moment est là, elles sont enflammées pour le Seigneur et elles vont le suivre. Ça, frères et sœurs, c'est la flamme du premier amour. Est-ce que Jésus, et je parle pour moi, Étienne, est-ce que Jésus est le premier amour de ta vie ? Je peux vous dire franchement, frères et sœurs, je le voudrais. Parce que le dernier verset qui était écrit sur le fond du mur de Charmes, de ce village qui s'appelle Charmes-sur-Rhône, « Viens, Seigneur Jésus ». C'est la dernière phrase de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui est dit ? L'esprit et l'épouse ou l'église ? L'épouse disent « Viens ». Tant que l'église n'est pas l'épouse, elle ne peut pas dire « Viens ». L'épouse, c'est quelqu'un qui a le désir d'être épousé, qui brûle d'amour pour son futur époux. Et en fin de compte, aujourd'hui, je crois que notre amour, c'est affadi. Jésus-Christ n'est pas notre premier amour. Je parle pour moi. Je voudrais qu'il le redevienne. Et c'est cette flamme de l'espérance, c'est la flamme d'un attachement presque amoureux à Jésus-Christ. Amoureux à Jésus-Christ. Et vous avez vu le film Un long dimanche de fiançailles ? C'est une parabole de ce que c'est qu'être amoureux. Cette jeune femme, elle est handicapée. Elle a connu l'amour avec ce jeune homme qu'elle aime de tout son cœur, c'est son premier amour. Il part à la guerre. Elle reçoit la nouvelle qu'il se trouve disant mort. Et elle ne veut pas croire qu'il est mort. Et elle le retrouve. Est-ce qu'on est comme ça ? Envers et contre tout, je brûle du feu du premier amour pour Jésus jusqu'au bout. Et je pense que si nous devons avoir une prière d'encouragement, c'est cette prière, Seigneur, renouvelle en nous le feu du premier amour qui est vraiment la flamme de l'espérance qui nous fait tenir. Pour que le jour de ta venue, nous soyons si enthousiastes de te voir que nous te suivrons, que nous irons avec toi. Que nous n'aurons pas d'autre choix parce que nous serons poussés par l'amour pour aller avec toi. Et je crois que, frères et sœurs, et c'est là la, vraiment ma dernière intervention, seule l'épouse est porteuse d'espérance pour le monde. Parce qu'elle est tellement attachée à Jésus. Écoutez une jeune fiancée ou un jeune fiancé parler de sa fiancée, vous allez voir, c'est le plus beau, c'est la plus belle, c'est le plus merveilleux, etc. Mais c'est normal, on est amoureux. Puis, écoutez-les 20 ans après. Attention, ce n'est pas méchant et péjoratif ce que je dis. On parle encore de la. On est encore amoureux, c'est vrai. Mais parfois, on se rend bien compte que cette espèce d'explosion un peu naïve, on ne l'a plus. C'est ce feu-là qu'il faut entretenir. Pas de la naïveté, mais un amour passionné pour Jésus. C'est ça qui fait tenir l'Église, qui la fait devenir épouse. Et le monde a besoin de chrétiens et de chrétiennes passionnées pour Jésus. Et dernière phrase que je dirais, l'huile qui était dans la lampe des vierges sages, c'est l'huile de l'intimité. Je ne peux remplir mon cœur d'amour pour Jésus que si je cultive l'intimité avec lui, personnelle, entre moi et lui. Étienne, où en es-tu de ton intimité avec Jésus, de ton désir d'intimité avec lui? Je peux encore prendre 5 minutes? Pas plus. Je pourrais parler d'intimité longtemps, parce que moi, c'est tout ce que Dieu travaille en mon cœur actuellement. Je vous partage ce que Dieu travaille. Je disais à Jean-Luc, je ne peux pas prêcher autre chose que ce qui m'interpelle. Autrement, c'est qu'une leçon théorique pour moi. Vous savez, les leçons théoriques, j'en donne à l'école. Hein. Et l'intimité, l'huile de l'intimité, juste un récit. Un grand prédicateur américain qui s'appelle Frangipane, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est en même temps un ministère prophétique, un homme de Dieu remarquable, on va dire, a vécu une expérience de réveil dans sa vie qui fait que, pendant toute une période de sa vie, il avait qu'un désir, c'est de prier et d'être avec Jésus. Il se levait le matin très tôt. Il passait 1, 2, 3, jusqu'à 5 heures avec le Seigneur, dans une intimité de prière tous les matins. Et après, sa journée était alors incroyable. Et c'était un homme qui rayonnait du coup pour les autres. Il y avait un rayonnement charismatique dans son ministère extrêmement fort du fait de cette intimité. Mais cette intimité, il ne la recherchait pas pour être béni. Il la recherchait pour être avec Jésus, c'est tout. Et il vivait un cœur à cœur avec Jésus tout à fait étonnant. Et puis le succès est arrivé. Le succès. Parce que c'est un homme de Dieu qui rayonnait. Et son église a grandi. C'était un homme qui avait un grand ministère. Peut-être qu'il a dû commencer à organiser beaucoup de choses. Et le temps de prière a commencé à diminuer. Il y avait trop de choses à faire. Jusqu'au jour où il s'est aperçu que s'il prenait encore une demi-heure avec le Seigneur, c'était beaucoup. Et dans son cœur, il y avait une souffrance, lui. Il avait la nostalgie de ce temps où il était avec le Seigneur et où il sentait une communion d'amour avec lui aussi belle que deux fiancés qui se voient, vous voyez, et le temps compte plus. On est tellement bien à deux. Et il se sentait un peu nostalgique et un peu coupable d'avoir perdu ce temps. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un de ses amis, pasteur, qui lui dit, je ne sais plus si c'est Francis ou Daniel, je ne sais plus. Francis, il dit, Francis, j'ai quelque chose à te dire de la part du Seigneur. Est-ce que je peux venir te voir? Je crois que cet ami habitait à plusieurs dizaines de kilomètres. Il lui dit, oui, écoute, viens. Il dit, écoute, d'accord, je viens demain. Puis il s'est dit en lui-même, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, je suis sûr ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que tu me reproches. Alors, il commençait déjà à se préparer en disant, Seigneur, tu vas me faire des reproches. C'est vrai que je t'ai abandonné. C'est vrai que j'y arrive plus. C'est vrai que j'étais trop pris par tout ça. Et donc, il est un peu dans, vous voyez, dans cette culpabilité, elle le taraude. Et le frère arrive le lendemain, il lui ouvre la porte, il lui dit, mon frère, je n'ai qu'une seule chose à te dire de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de te dire, Francis, c'est ça? Oui. Francis, tu me manques. Voilà ce que le Seigneur a dit à Francis. Francis, tu me manques. Jésus aussi a le désir de cette rencontre avec nous, de ce temps qu'on passe avec lui. Francis, tu me manques. C'est tout. Aucun reproche. Tu me manques. Parce que s'il y a une épouse, il y a un époux. Et Jésus désire cela avec nous. Frères et sœurs, soyons la communauté au sens large de ceux et celles qui ont cette veilleuse d'amour en eux. Parce que par la grâce de Dieu, nous cultivons l'intimité avec celui qui sait, qui est et qui sera notre futur époux. Amen.